Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Olivier Pasquier. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Barsac pour parler de la poésie comme langage spirituel. Stéphane Barsac, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Lélie.
Bonjour à tous les deux. Stéphane Barsac, vous êtes né et vous avez grandi à Moscou, dans une famille russo-française et dans un milieu artistique. C'est dire que vous avez été sensibilisé très jeune à la nécessité de la poésie, ça c'est le côté russe, et à la puissance salvatrice de la beauté, puisque votre père est un des plus grands sculpteurs vivants aujourd'hui. Après des études littéraires, vous avez commencé une carrière de grand reporter pour la presse écrite. Vous avez publié dans de nombreuses revues, mais vous avez pris vos distances avec le journalisme pour vous consacrer plus à la littérature, précisément, comme directeur littéraire, puisque vous avez dirigé plusieurs titres de la très belle collection Bouquins chez Lafont et qu'aujourd'hui vous êtes chez Albin Michel, où vous avez fait publier plusieurs romans et essais. Mais aujourd'hui, aux Racines du Ciel, c'est comme écrivain que nous vous recevons, car vous avez publié plusieurs ouvrages qui sont en fait des biographies méditées. Johannes Brahms, Jacques de Sud, François d'Assise, La Joie Parfaite au Seuil, Simone Veil, Le Ravissement de la Raison toujours au Seuil, Cioran, Éjaculation Mystique, ainsi que de nombreuses études sur la poésie précisément, sur Baudelaire, sur Edmond Jabès, Yves Bonnefoy, etc. Le dernier en date s'intitule Rimbaud, celui-là qui créera Dieu, publié aux éditions Seuil dans la collection Point. Cet ouvrage est une méditation sur la vie et l'œuvre de Rimbaud qui vous amène aussi en fait à des considérations sur la poésie comme manière d'être et de vivre, ou peut-être plus encore comme manière de ne pas mourir. À travers l'évocation de Rimbaud, le poète avec un P majuscule, le plus radical de tous, peut-être, vous nous parlez de l'essentialité du verbe poétique pour, selon l'expression de Platon, ou plutôt de Diotime parlant à Socrate, pour faire passer du non-être à l'être. Opération hautement spirituelle, s'il en est.
Alors nous avons souvent reçu aux Racines du Ciel des poètes, et puis nous avons aussi reçu des auteurs qui nous parlaient de grands poètes mystiques, notamment Jean de la Croix et bien d'autres, poètes soufis. Et donc on s'est rendu compte à quel point la poésie avait une place essentielle dans la spiritualité. Et on peut se demander tout simplement, pour commencer cette émission, c'est pas tout simplement parce qu'effectivement il est très difficile de parler de l'indicible, de l'innommable, de l'ineffable, puisque l'absolu, Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, on ne peut pas en parler de manière très rationnelle. Et donc, est-ce que parce que la poésie peut faire appel à la métaphore, au symbole, etc., c'est un bon moyen de dire quelque chose de l'indicible?
Effectivement, la poésie, c'est un art du langage. C'est-à-dire que c'est un art du langage très spécifique qui passe par le rythme, par l'image, par la métaphore. Donc toutes sortes de choses qui permettent de dire ce qu'on ne peut dire. Et en même temps, vous avez très bien, au début de votre intervention, mis en avant qu'il y avait plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est de l'ordre, on va dire généralement, de l'inavouable. Alors ça, ce n'est pas nécessairement le cas de la poésie, c'est plus le cas de la prose. Mais il y a aussi ce qui est de l'ordre de l'indicible, ce que vous avez dit. L'indicible, c'est simplement ce qu'on ne peut pas dire parce que c'est entouré d'un mystère. Et il y a ce qui est de l'ordre de l'ineffable, c'est ce qu'on ne peut cesser de dire tellement les paroles sont insuffisantes pour cerner justement le mystère. Et il va de soi que la poésie est une manière de toucher et l'indicible et l'ineffable, c'est-à-dire de montrer l'autre versant des mots, l'envers de la parole qui est liée autant à la musique qu'au silence, et à travers elle, ce qui se joue, c'est simplement la possibilité d'un accès à une parole haute, une parole altière.
Oui, et c'est vrai que c'est une histoire ancienne que la poésie soit le langage de l'ineffable, langage inspiré, voire langage des dieux. Alors soit c'est le langage des dieux, soit c'est le langage pour dire le dieu. Et je voudrais peut-être qu'on commence par le commencement pour notre monde occidental, c'est-à-dire par le statut de la poésie chez Platon. Peut-être que c'est très important de remettre en place ce qui s'est joué dans les œuvres de Platon en matière de poésie, et ça a été déterminant pour la suite de la poésie en Occident, mais aussi en Orient.
Oui, alors incontestablement. Ce qui est très paradoxal dans le cas de Platon, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui a des propos divers sur la poésie, en particulier dans son dialogue qui s'appelle Lyon, où il parle du poète comme une chose légère, une chose effectivement gracile, qui virevolte, ce qui peut sembler un compliment pour quelqu'un qui est un homme qui a de la gravité, puisqu'il sait le prix de la légèreté. En même temps que c'est quelqu'un qui, dans la République, a des propos très durs contre les poètes, qui tend à exclure justement de la communauté idéale. Alors, là-dessus, effectivement, on peut s'interroger sur la raison de cette exclusion. Est-ce parce que les poètes viennent après le temps des prophètes? Est-ce parce qu'ils profanent une parole sacrée? Est-ce parce qu'ils ne sont pas encore au niveau de la parole politique? Toutes sortes de questions, effectivement, qui sont au cœur des débats qui vont traverser les siècles, qui font que, effectivement, ces débats vont se reposer à chaque époque où la politique va être importante. Il va de soi qu'au Moyen-Âge, la poésie chemine à côté de l'Église, mais pas nécessairement au sein de l'Église. Au moment de la Révolution française, on veut instaurer une parole officielle, mais on voit bien que le grand poète s'est chaigné, il est décapité. Au moment du communisme en Union soviétique, on voit bien qu'il y a des poètes officiels, mais les grands poètes meurent dans les camps. Et donc c'est sûr qu'il y a, un cheminement qui est très curieux. Il n'empêche, et là je pense que Laëlie, nous nous retrouvons, le grand paradoxe c'est que Platon est lui-même un très grand poète. Voilà, donc un très grand poète qui condamne les poètes.
Mais est-ce qu'il a écrit une œuvre poétique en soi, ou vous dites c'est un très grand poète à travers ses dialogues et son écriture?
Alors c'est un poète à l'origine, ça on le sait, qui a après délaissé l'écriture poétique justement pour essayer d'aller vers une autre parole.
Ah donc il a vraiment écrit des poèmes, oui. Et qu'on a perdu, parce que ça, j'ai jamais lu des poèmes de Platon.
Non, il a écrit des poèmes. Sans doute a-t-il dû estimer qu'il n'était pas un assez bon poète non plus. Il venait aussi après quand même les titans qu'on sait, les Pindare et autres. Oui. Et en revanche, tout de suite là, on est une fois de plus dans le cœur du sujet. Un grand poète n'est pas nécessairement quelqu'un qui écrit des vers. Vous prenez le cas de Shakespeare, il a écrit des vers, ils sont merveilleux. C'est un grand poète parce que c'est d'abord un dramaturge. Et donc, à travers toute activité humaine, il y a une part de poésie.
Oui, alors justement, c'est pour ça que le verbe dont il est issu est très intéressant, puisqu'en grec, ça vient du grec poiein, faire. Très souvent, on lit que ce poiein, ça veut dire fabriquer, faire quelque chose un peu d'extérieur et avec une forme un peu fabriquée, ornementale. Alors qu'en réalité, dans le banquet, quand Diotime parle de la poésie, elle dit pas du tout que c'est fabriqué, elle dit que c'est poiein dans le sens où ça fait être les choses. Ça fait que ce qui n'était pas avant, soudain, se met à être. Donc on est là du côté aussi de la fonction poétique qui n'est pas du tout d'être forcément un langage en vers.
Non, alors la grande question, en fait, qui est au cœur de tous nos débats, au-delà même de la poésie, mais qui est essentiellement poétique, c'est de savoir si le langage nomme ce qui est ou s'il arrive à désigner quelque chose qui n'est pas en le faisant exister. Sartre a écrit des pages là-dessus où il prend comme exemple le cheval de beurre. Il dit « si je dis cheval de beurre, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais ça n'existe pas ». Alors par voie d'extension, effectivement, quand nous parlons de Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou c'est quelque chose que nous créons par le langage? Peut-être que Dieu est une création poétique, peut-être qu'effectivement c'est la création poétique suprême. Et ça n'est pas le rabaisser que de dire ça, c'est mettre justement l'homme dans sa position d'interprète privilégié de cette parole qu'il fait advenir et, comme vous le disiez, qu'il crée.
Et c'est peut-être ça qui fait que la poésie nous est nécessaire, même si parfois on l'ignore soi-même. Et je voudrais vous lire un court extrait d'un texte d'Armel Gern que vous m'avez fait découvrir, Stéphane Barsac. Donc je vous en remercie parce que vraiment c'est un magnifique ouvrage. En fait, ce sont des écrits sur le romantisme. Ça s'appelle « L'âme insurgée », écrit sur le romantisme. Là, c'est extrait d'un texte qui s'intitule « Laissez-moi vous dire ». Et voici ce que dit Armel Gern il y a quelques années déjà, mais je crois que c'est valable pour tous les siècles. « Jamais la poésie n'a été aussi nécessaire quel que puisse être le nombre de ceux qui ne le savent pas, ni réclamer dans une urgence aussi abrupte et absolue l'indispensable chant secret de cette pauvresse splendide. Fille sauvage de la Providence et seule héritière directe des hautes évidences premières qui fait la honte du monde dit civilisé. Rejetée de nos jours plus et mieux que partout ailleurs. Parce qu'elle est l'enfant surnaturel du Verbe et naturellement l'avocate de l'âme insurgée, la poésie est par essence le seul langage encore assez vivant, encore assez armé, encore assez puissant et entier, assez près du mystère aussi de la parole, pour emporter d'assaut les forteresses de l'inertie et crever le béton des citadelles du mensonge, portant en elle un grain de vérité humaine qui peut germer encore, une semence de beauté qui fleurira dans la hideur de saint pollen de l'immortelle simplicité et même pour certains, l'amande du noyau, du fruit intemporel qui fait lever dans l'âme, puissamment, un arbre superbe avec le bruissement vivant de son feuillage, le creusement très doux du bleu des ombres et la visite claire des oiseaux qui le font sourire.
C'est intéressant que vous parliez des romantiques, Lélie, parce que le romantisme a été un formidable mouvement de réhabilitation de la poésie. Et comme vous le disiez, Stéphane Barsac, de la poésie de manière beaucoup plus large que simplement l'écriture, même si ça a eu lieu aussi, comme mode d'existence poétique. Et au fond, les romantiques ont réagi contre la mécanisation du monde, la marchandisation du monde, c'est l'expression et deux, contre le fait qu'on est uniquement dans des logiques de rationalité, de rendement et d'efficacité, pour dire au fond, il faut mener une existence dans lequel il y a de l'imprévu, dans lequel il y a encore la place pour le mystère, dans lequel il y a de l'imaginaire qui peut être présent. C'est toute l'entreprise romantique qui a à la fois en partie échoué, parce qu'on a continué dans cette logique de mécanisation, de marchandisation, mais qui en même temps a lancé cet immense cri de révolte qui continue d'être dit aujourd'hui.
Il va de soi que le romantisme, c'est le grand mouvement pour tenter de réenchanter le monde à une époque où, effectivement, on découvre une science qui devient de plus en plus inquiétante, avec les merveilles qu'elle apporte néanmoins, où on découvre une économie qui aliène de plus en plus au lieu de libérer, et où se pose la question simplement du rôle de l'artiste. Paul Bénichoux a fait un très beau livre sur ce qu'il a appelé le sacre de l'écrivain. Il va de soi que tout au long du XVIIIe siècle, il y a eu une rivalité entre les prêtres et les écrivains. Les écrivains tentant de se substituer aux prêtres. Et le romantisme a été, dans la continuation de ce mouvement, une volonté de se réapproprier la parole. Les écrivains comme conscience, mais comme porteurs d'une conscience sacralisée à nouveau. Et c'est là où on a effectivement inventé cette image du mage, qui est incarné en Allemagne par quelqu'un comme Novalis, en Angleterre par tous les grands poètes romantiques anglais, et plus tardivement en France, effectivement tout au long du XIXe siècle, par des gens aussi différents que Hugo, Baudelaire, Rimbaud, une image qui perdure jusqu'à présent finalement. Et à travers cette image, en fait, c'est la question de la possibilité d'un accès entre une parole dont quelques initiés sont capables de la verbaliser, de la mettre en forme, et le public, c'est-à-dire tout un chacun, sans l'intermédiaire, effectivement, du canon, sans l'intermédiaire du prêtre, en fait. Et là, il se joue quelque chose qui est très important. On va prendre la tradition chrétienne et française en particulier. Il va se voir que pendant des siècles, la poésie a été au cœur de l'Église, portée par l'Église. À partir du moment où il y a eu un divorce entre l'Église et les créateurs ont repris à leur compte une part de sacré qui n'était plus nécessairement une part de liturgie propre à des canons, mais qui était une liturgie réinventée. Et ça, ça a été le grand mouvement de libération de tout le romantisme.
Et on pourrait dire que même avant, là je reviens sur la période chrétienne, toute cette période de la haute antiquité du Moyen-Âge chrétien, qu'au fond il y avait quand même une poésie qui était un peu muselée, parce que, comme vous le disiez, par les canons de l'Église, et qui a eu déjà, à travers les mystiques, une sorte de libération du langage poétique par rapport aux canons liturgiques ou dogmatiques. Et on voit que les grands poètes mystiques chrétiens, c'est une forme de liberté qu'ils acquièrent à travers le langage poétique par rapport à le caractère un petit peu trop, je dirais, étouffant de la formulation théologique classique.
Ah oui, c'est tout à fait vrai. Il va de soi que l'un des plus grands poètes, c'est Saint François d'Assise, Cantique du Frère Soleil. On ne peut pas imaginer plus simple et plus émouvant. C'est Saint Jean de la Croix, c'est évidemment tous ceux qui ont traversé toute l'histoire de la chrétienté, en étant toujours aux marges, c'est-à-dire en étant à la fois dans l'institution, mais presque sur le dehors, et qui ont néanmoins été brandis par l'institution comme preuve de sa libéralité, ce qui est assez paradoxal. Mais le fait est que cette tradition s'est développée et a vraiment trouvé son plein écho avec le romantisme.
Oui, mais alors en même temps, justement, Armel Guern écrit, enfin, il publie ce texte en 1977. Donc, ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est un mouvement qui continue, c'est-à-dire face à la domination de l'individualisme, du matérialisme, du règne de l'argent, etc., qui n'a pas cessé, visiblement, quels qu'aient été les efforts
des poètes.
De la quantité, absolument.
Oui. La poésie, c'est la recherche de la qualité.
Exactement. Donc, il y a quand même encore une nécessité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit en réalité, en France, la poésie n'est plus du tout en vogue, et c'est vrai. Et de la même façon, quand on s'adresse à un éditeur, et vous savez très bien de quoi je parle, puisque vous êtes de la partie, c'est vrai que la poésie, c'est pas quelque chose qui se vend. Mais paradoxalement...
Ça reste à prouver d'ailleurs.
On a quelques auteurs, on parlait de Bobin,
Christian Bobin,
on a reçu,
oui.
qu'on soit très régulièrement Racine du Ciel. Quel succès extraordinaire.
Absolument, oui.
Oui, mais c'est quand même, globalement, quand vous allez voir un éditeur avec un projet de poétique, il a quand même tendance à pas trop vous recevoir. Quand on est Christian Bobin, d'accord, mais
ça,
globalement, c'est ça.
Ça n'a pas, je pense, rapport avec l'édition, ça a rapport avec le temps dans lequel nous sommes.
Voilà.
Je prends un exemple. On va dire qu'un roman qui a un grand succès peut faire 20 000 exemplaires, ce qui est effectivement un chiffre aujourd'hui très important. C'est déjà un best-seller. Vous prenez Alcool de Apollinaire, c'est 1,5 million d'exemplaires. Donc il va de soi que le best-seller, c'est Apollinaire. Mais simplement, c'est un best-seller sur un siècle.
Oui, exactement. Et surtout, le succès de la poésie, c'est quand même... J'ai appris par un ami qui fait un rapport pour le CNL sur la poésie, justement, j'ai appris que la forme la plus représentée littéraire sur le net, c'est la poésie. Ce que je voulais dire, c'est que justement, la poésie est une résistance à un mode de pensée marketing, je dirais, et que ça marche en réalité, puisque ça ne se vend pas, mais parce que précisément, c'est gratuit.
Oui, c'est très bien dit. La poésie est une manière de dire non. Curieusement, c'est une dialectique, parce que c'est une manière de dire non pour pouvoir dire un oui supérieur. C'est quelque chose qui est effectivement un acte de résistance, mais c'est aussi un acte d'engagement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, très simplement, que c'est à la fois le lieu privilégié de l'espace mystique, dirons-nous, comme l'espace privilégié de la parole amoureuse, les deux étant liés pour le coup.
De la musique avant toute chose, et pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise ou l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant du midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance, oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie de Stéphane Barsac pour parler de la poésie comme langage spirituel. Lélie Envard.
Oui, alors, je voudrais peut-être que, qu'on avance dans notre propos en prenant l'exemple de Rimbaud qui est à bien des égards emblématique en fait, de ce que nous venons de dire, même si à proprement parler ce n'est pas un poète mystique, mais il a quelque chose à voir avec la question de l'invisible. Il a une quête qui évidemment répond à toutes ces questions que nous nous posons. Mais peut-être avant de parler de sa poésie à proprement parler, pouvez-vous nous dire un peu rapidement, évidemment, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission sur sa vie qui a été très...
Mais quand même un petit peu.
Oui, c'est ce que je dis. Voilà, peut-être rapidement que vous nous disiez voilà, d'où il vient et vers où il est allé, parce que ça nous permettra de comprendre quels sont les enjeux poétiques de sa vie, qui a été un flamboiement poétique, en tout cas dans la première partie.
Bon, alors je me risque. Donc Rimbaud naît en 1854. Donc il naît dans une famille où le père est militaire, la mère est femme au foyer. Et très vite, le père déserte le foyer conjugal, va en garnison à Dijon. Après avoir eu une carrière assez glorieuse, il a servi en Algérie au cours de la période de la colonisation. Ce qui est très important dans le cas de Rimbaud, puisque on sait qu'il a quitté le domicile familial en ne laissant que sa grammaire et un Coran qui vont nourrir l'imaginaire de Rimbaud. Rimbaud donc se retrouve seul avec sa mère, qui est une femme qui a été très souvent décriée comme étant bigote. Il faut voir ce que c'était à l'époque, à Charleville, que d'élever seul des enfants, sans mari. Ça devait être très dur, elle était seule face à ça, sans grande fortune non plus d'ailleurs. Et donc, elle lui donne une éducation très religieuse, très mystique. Il faut considérer aussi ce temps, il n'y avait rien de ce que nous connaissons, pas plus de téléphone que d'Internet, de tweet et je ne sais quoi. La seule chose qu'on pouvait lire, c'était la Bible et les cantiques. Et donc Rimbaud, qui est avec une mère très pieuse, va être nourri de cette littérature religieuse, au point qu'effectivement... d'une certaine manière, toute son œuvre est à la fois un combat et une réécriture de la Bible. Et très vite, il montre des dispositions étonnantes. C'est un garçon génial, très brillant, et en même temps qu'il est très indiscipliné. Alors là, il y a le paradoxe fondamental de Rimbaud, c'est-à-dire que c'est le fort en thème par excellence, et c'est en même temps celui qui n'a de cesse que de tout briser, de briser les idoles à mesure qu'il les a justement atteintes. Et... donc, au moment de l'adolescence, il fait une fugue, il va à Paris, il est renvoyé, il en refait une autre, il voit de loin la Commune de Paris. Finalement, il arrive à Paris après ce désastre extraordinaire. Et son écriture représente ce moment très étonnant où il y a un système entier qui s'effondre, qui est le Second Empire, et où, finalement, à travers cet effondrement, naît une parole nouvelle, comme très souvent, qui est la sienne.
Et l'Alexandrin s'effondre aussi par la même occasion.
Tout s'effondre. Ouais. Tout s'effondre. Et donc il arrive à Paris et puis là il vit la vie qu'on peut imaginer. Et là effectivement il mène la vie qu'on sait, c'est-à-dire la vie de bohème. Il boit beaucoup et plus que beaucoup et puis autre chose que de la bière. Il se drogue, il a toutes sortes d'aventures extrêmes, mais qui correspondent aussi à un tempérament d'abord d'un jeune homme qui est en pleine croissance, qui cherche à tester les limites en permanence, qui veut tout le temps aller plus loin, qui veut reculer les bornes, comme en poésie, il va essayer de les reculer de la même manière. Et là, il rencontre Verlaine, avec qui il a une aventure qui est très paradoxale. Alors, on la réduit trop souvent à une aventure amoureuse. C'est bien au-delà de ça. C'est une aventure qui est une aventure spirituelle entre deux êtres qui vont s'apprendre l'un à l'autre ce qu'ils savent. Et il va de soi qu'il y a chez Rimbaud un désir mimétique et il va se fondre sur Verlaine pour essayer de lui piquer tous ses trucs.
Verlaine a quel âge à ce moment-là à peu près ?
Verlaine a 10 ans de plus que lui. D'accord. Donc en fait ce sont des jeunes gens. L'un a 16 ans, l'autre en a 26. Et donc ça devient un tel chaos leur histoire. Ils se battent, ils s'insultent en public. La réputation la plus mauvaise les précède, qui décident en fait de quitter la France. Et donc c'est leur folle équipée qui les amène à Londres. Ou alors là ça dégénère à tel point que Verlaine décide de quitter Londres et va se réfugier à Bruxelles. Rimbaud, pour la première fois de sa vie et la dernière, écrit une lettre où il fait apparaître des sentiments pour quelqu'un, supplie Verlaine de pouvoir le rejoindre. ils se retrouvent. Et là, Verlaine, qui est un homme très fraternel dans sa faiblesse, je dois dire, est partagé entre sa femme, Rimbaud, sa carrière, sa mauvaise réputation, sait plus quoi faire, et donc achète un pistolet, sans doute pour se suicider. Et au lieu de se suicider, il tire sur Rimbaud, en fait. Donc, évidemment, ça se termine assez mal, puisque après une péripétie que je vais sauter, le pauvre Verlaine est arrêté, il est jugé, il est condamné, il fait 2 ans de prison, en fait. Et c'est là où il écrit le grand témoignage de sa crise spirituelle, qui est La saison en enfer. Et cette saison en enfer, c'est un moment très important de la littérature, parce que... Rimbaud était un poète au sens, on va dire, classique du terme, c'est-à-dire qu'il brodait sur les sentiments, les thèmes mythologisants, les lieux communs de la poésie de son temps. Et là, tout à coup, il se prend lui-même comme matière de son poème et il va finalement résumer l'intégralité de sa vie à travers ce qui est une certaine forme de confession négative, La saison en enfer, où il fait part de sa traversée, effectivement, d'un monde sans Dieu, d'un monde où il a abandonné tout, et d'une recherche, effectivement, à travers tous ses excès, toutes ses folies, d'un extrême qui est finalement inabordable.
Ah, c'est le moment de lire un extrait d'Une saison en enfer. Je vous ai choisi Alchimie du Verbe. Parce que justement, ça résume tout ce que vous venez de dire. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Je rêvais croisades, voyages de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. A, noir, E, blanc, I, rouge, O, bleu, U, vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Et il dit bien, je voulais créer un verbe poétique accessible. Pourquoi un verbe poétique accessible ?
C'est-à-dire, en fait, la possibilité que tout le monde puisse parler en poésie. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce livre, qui est vraiment un des plus hauts témoignages de l'esprit, toute langue confondue, c'est que Rimbaud parle d'une saison en enfer. Alors, il faut faire très attention aux termes. Une saison, ce n'est pas l'intégralité des saisons, ce ne sont pas les 4 saisons. C'est une saison, donc ça veut dire qu'il y en a 3 autres. Donc, un petit peu comme Saint Jean de la Croix parle de la nuit obscure, la saison en enfer est une expérience que tout le monde, à un moment ou à un autre, vit, doit vivre et vivra. Toute la difficulté, et c'est ça, c'est d'arriver à en sortir. Et donc, l'enfer en question, quel est-il ? Il le dit très clairement. Il dit, ça n'est pas de concevoir un monde sans Dieu. Ça, on peut très bien s'en accommoder. C'est de concevoir que Dieu, c'est le néant. C'est tout à coup de concevoir non pas que le monde existe sans cette faribole qui viendrait en surimpression de ce qu'on pense, mais que effectivement Dieu est, mais dans le néant, et que tout est mort. Et c'est la mort en soi, la mort du désir, la mort de l'amour, la mort simplement de la foi dans la vie.
Et c'est la cédille, finalement,
oui, absolument.
Les anciens.
Oui, absolument. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à traverser ça pour justement retrouver le verbe. Et la saison en enfer, effectivement, c'est l'expérience, majeure de son siècle, d'une autre. Ou alors peut-être que nous sommes passés d'une à 2 ou 3 saisons, je ne sais pas. Mais avec toujours la possibilité d'un paradis. Et évidemment... Ce qu'il y a derrière, c'est cette volonté d'un paradis qui ne veut tout de même pas abandonner.
Oui, et on voit quand même que c'est à la fois cet état intérieur dont il essaye de rendre compte. Il parlera de dérèglement aussi de tous les sens dans la lettre du voyant. Mais en même temps, on voit qu'il est en train de régler ses comptes avec sa mère, avec Dieu le Père éventuellement, avec la Bible, avec toutes ces choses qu'il voudrait anéantir mais dont il ne parvient pas à sortir, y compris la foi elle-même.
Oui, chez Rimbaud, et c'est pour ça qu'il plaît à toutes les jeunesses, à tous les âges, à toutes les époques, aujourd'hui, demain, il correspond à ce grand mouvement d'étonnement des enfants au sortir de l'enfance, justement, dans cette période de transition si particulière qu'est l'adolescence, où on quitte un monde, on en découvre un, on est dans un état instable, le corps pousse, les hormones sont là, rien ne va, les parents ne sont pas bien, Dieu n'est pas bien, soi-même on n'est pas bien. Et donc il raconte ce moment si particulier qui semble être un nom opposé absolument à tout. Mais alors, encore faut-il comprendre d'où ça vient. C'est un nom opposé à tout par rapport, justement, à ce qui a bercé sa jeunesse, son enfance, c'est-à-dire la foi. Voilà, c'est quelqu'un qui, à la fois jeune, qui découvre que la foi n'est rien et qui se rebelle contre cette foi. C'est une expérience, je crois, très, très humaine, très universelle.
Et salutaire.
Et sans doute salutaire, bien sûr, puisque ce n'est pas de se rebeller qui est grave, c'est de s'y tenir ou de ne pas dépasser. On va dire que c'est peut-être aussi un moment nécessaire. Tous les grands mystiques ont d'abord vivent l'expérience du désert, vivent l'expérience du doute. C'est impossible autrement. Ou alors c'est qu'on n'a pas une expérience sérieuse des choses. Mais pour autant, effectivement, la question, c'est de savoir si on traverse ça ou pas, si on arrive à passer de l'autre côté.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que l'adolescence, c'est un des grands moments de la créativité poétique. Très souvent, adolescent, on écrit des poèmes. Moi, je me souviens, j'étais à fond dans la poésie à l'adolescence. Puis après, il y a une période où on est plus dans l'efficacité du travail, de fonder une famille, de créer une vie professionnelle. Et puis, on revient peut-être à la poésie un peu plus tard, vers le milieu de la vie, quand peut-être on a vu les limites aussi de tout le caractère simplement pratique de l'existence et qu'on a besoin de remettre cette dimension.
Oui, d'ailleurs, ce que vous dites, Frédéric, est particulièrement vrai pour Rimbaud, puisque, alors après une saison en enfer, il y aura encore les illuminations, et puis ce sera le silence. Je veux dire, ce sera le poète adolescent éternellement, puisque lui ne reviendra plus jamais. Il fera silence et ce sera terminé.
À quel âge il arrête d'écrire
Alors. Il arrête d'écrire vers la vingtaine.
Vers la vingtaine, c'est ça.
Mais ce qui est très intéressant dans le cas de Rimbaud, justement, c'est qu'il a un rapport dialectique avec ces choses-là. Une fois la saison en enfer traversée, alors on a longtemps pensé que c'était le dernier texte de Rimbaud, parce que ça se termine par un poème qui s'appelle L'Adieu. Alors il se trouve que ce n'est pas du tout le dernier texte, il a écrit Les Illuminations. Et les illuminations sont un pas plus avant encore que la saison en enfer, puisque la saison en enfer, d'une certaine manière, était une liquidation rétrospective de tout, à partir de quoi Rimbaud se trouve complètement démuni, il croit toujours en la poésie, et là, il y a, à mon avis, la part la plus géniale de ce qu'il a fait, c'est-à-dire cette volonté de réinvention globale de tout, et de recréer, là, pour le coup, une vraie parole sacrée. Après les quatre évangiles, d'en écrire un cinquième. Il faut contextualiser cela. À la même époque, vous avez quelqu'un comme Léon Blois, par exemple, qui a une pensée qui est très... très fructueuse, qui reprend d'un moine calabrais du Moyen-Âge, Joachim de Flore, autour du Paraclet. Et je pense qu'il y a chez Rimbaud la même volonté paraclétique, c'est-à-dire de prendre à soi les forces de l'esprit pour proposer une nouvelle foi. Et il va de soi que les illuminations sont cette réponse, c'est-à-dire l'invention d'un évangile poétique accessible à tout le monde, hors des cadres de l'Église, mais qui soit néanmoins animé par une vraie foi joyeuse, pleine, entière.
En vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser, depuis un certain moment, à un de ses contemporains, philosophe, qui est Nietzsche. Je me dis, c'est étonnant comme il y a des parentés entre eux dans ce désir de détruire toutes les fausses valeurs, et en même temps, ils sont habités par une foi, par une mystique, par un désir d'écrire un cinquième évangile.
C'est exactement ça. Alors, on peut dire même qu'à l'époque, il y a quatre personnes qui jouent une espèce de quatuor assez étonnant, qui ont quasiment le même âge à quelques années près. Alors après, la question, c'est de savoir si c'est l'époque qui produit ça ou si c'est eux qui produisent leur époque. C'est Rimbaud, c'est Nietzsche, vous avez absolument raison. C'est Léon Blois et c'est Thérèse de Lisieux. Rimbaud, c'est effectivement une volonté de réinventer Dieu, mais un Dieu futur, enfin, le Dieu à venir, le Dieu qui n'existe pas en fait, mais que lui-même va révéler, étant donné qu'il est lui-même le porteur de cette divinité.
Et l'expression d'ailleurs de votre sous-titre est tirée d'un poème où Verlaine dit de lui « celui qui créera Dieu ».
Voilà. Vous avez Nietzsche qui effectivement, lui, vous avez raison Frédéric, va casser toutes les idoles et va revenir plus en arrière dans une espèce de réinvention d'une Grèce mythologique, mystique, extrêmement étrange, qui va mener à la folie, comme Rimbaud a été mené au silence. On a Léon Blois, dont je parlais au sujet du Paraclet, puis on a Thérèse de Lisieux qui, elle, va devenir sainte. Et ce quatuor-là nous dit quelque chose, effectivement, sur les possibilités de faire face à son temps, soit pour revenir en arrière, mais un arrière qui soit un nouveau commencement, soit pour inventer une autre aventure, l'aventure de chacun, finalement, soit éventuellement pour pousser la foi mystique jusqu'au terme où on devient carrément, comme dans le cas de Thérèse de Lisieux, une sainte.
Ces loupes d'été, rien ne bougeait encore au fond des palais. L'eau était morte, et les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché réveillant les haleines vives et tièdes. Et les prêts-pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sentier des gens emplis de frais et blêmes. Éclat une fleur qui me dit son nom. Je ris au Wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. En compagnie ce matin de Stéphane Barsac, nous parlons de la poésie comme langage spirituel et puis en plus particulièrement de Rimbaud à l'occasion de la sortie de votre livre Rimbaud, celui-là qui créera Dieu, collection Point Sagesse.
Oui, alors vous venez de faire un rapprochement entre quatre personnages. L'autre point commun entre ces quatre personnages, c'est quand même aussi le christianisme. Et on voit, alors il y a chez Rimbaud ce désir d'un christianisme totalement libéré de l'Église, évidemment, du dogme, ce qu'il a complètement rejeté en rejetant aussi sa mère, d'ailleurs, dont il parle en des termes extrêmement durs à cause de sa bigoterie. Et en même temps, dans Illumination, on voit bien que finalement, la personne du Christ n'est pas tant présente que sous la forme précisément de la lumière. Comme si, après une saison en enfer qui aurait été la nuit obscure, il arrive à un temps qui est celui de l'illumination où toute cette foi, tout ce qui est divin ou christique va réapparaître sous une forme presque panthéiste.
Oui, et christique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'incarner au monde, qui va faire rentrer la rumeur du monde dans son poème et qui va se présenter lui-même comme l'être ultime qui ressaisit toutes les visions en une, tous les souffles, tous les pas, comme il dit dans son grand poème « Génie », qui est un texte très étonnant parce que le génie vise aussi bien les génies de la Perse antique qu'une forme de Christ renouvelée. Dans le cas de Rimbaud, il y a un rapport au christianisme qui est évident, qui est tout à fait bouleversant, qu'on va retrouver à la fin de sa vie. Et ça, c'est une des grandes interrogations pour savoir s'il s'est converti ou non sur son lit de mort après une vie tumultueuse. Alors, à partir de quoi, je précise juste une chose, il y a eu beaucoup d'interrogations parce qu'on a voulu qu'il ait terminé comme musulman. Est-ce qu'il se serait converti ou pas?
Parce qu'il est parti en Abyssinie, enfin voilà. Il a voyagé longtemps.
Moi je fais le pari qu'il a tout à fait pu se convertir aussi pour faire du commerce, tout simplement. Il savait que, en connaissant les noms de Dieu et en pouvant les réciter, il était préservé de la mise à mort. Donc, il a eu une passion pour le Coran et l'islam, mais peut-être aussi d'un point de vue pragmatique. De là à en faire un musulman, je ne suis pas tout à fait convaincu. Il n'y a pas d'écrit dans ce sens, en tous les cas. Après, on a voulu en faire quelqu'un qui est mort en athée résolu. Là aussi, personne n'en sait rien. Et sa sœur, en revanche, a dit qu'il est mort en chrétien. Alors, Henri Guillemin a une très belle formule. Il dit « Rimbaud a ressuscité, puis il est mort ». Là aussi, on n'en sait rien en réalité, mais il faut dire que c'est la question centrale, c'est la question du sens à donner à sa vie.
Mais alors, concrètement, parce que là, moi, je connais effectivement très peu la vie de Rimbaud, qu'est-ce qu'il est advenu entre l'âge de 20 ans et sa mort? Qu'est-ce qu'il a fait? On a quand même envie de savoir un petit peu aussi, parce que moi, je m'intéresse aux histoires, donc j'ai envie de savoir la fin. Qu'est-ce qui s'est passé après cette période extraordinaire de créativité, Verlaine, la poésie, etc., la drogue? Qu'est-ce qui devient?
Alors, il fait des expériences qui sont plus malheureuses les unes que les autres. Et c'est incontestable que c'est quelqu'un qui a été marqué par le guignon toute sa vie. Donc, il perd sa sœur, qui est un grand choc pour lui. Il a passé l'âge où il peut présenter les grandes écoles, alors que c'est un enfant surdoué, mais il ne peut plus les présenter, simplement parce qu'il n'a plus l'âge. Et on lui propose de faire son service, qui à l'époque durait plusieurs années, et il déserte. Alors, à partir du moment où il est déserteur, évidemment, les choses se compliquent parce que si la police lui met la main dessus, ça veut dire qu'il va en prison. Et donc là commence une vie très douloureuse, d'errance en errance, une vie qui fait rêver rétrospectivement, mais qui n'est absolument pas une vie de rêve, puisqu'il va être tour à tour contremaître, marchand, trafiquant. Il va faire tous les métiers les plus ingrats qui soient, et à chaque fois dans l'échec. Puis à la fin, il fait une expédition pour vendre des fusils au roi Ménélique qui le roule comme un débutant. Alors c'est là aussi que c'est tout à fait étonnant parce qu'on a affaire à un très grand poète qui se veut homme d'action. Et en tant qu'homme d'action, il faut bien dire les choses, il est nul. Et donc finalement, le poète n'a pas non plus été totalement tué en lui. Et c'est dommage qu'il n'ait pas voulu continuer.
Oui, et d'ailleurs dans ses lettres à sa sœur, il dit tout le temps « il faut que je fasse de l'argent, il faut que je gagne de l'argent ». D'un coup, on le sent très préoccupé par cette question. On parlait tout à l'heure de cette opposition entre le règne de l'argent et le règne de la poésie. Et on le sent déchiré.
Oui, mais il la vit lui-même en fait. Alors après, la question, c'est de savoir si, dans son silence, finalement, il y a une renonciation. Est-ce que le fait de se taire, après avoir été génial, est une forme d'abandon? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué? Il aurait pu faire carrière. Mais effectivement, la poésie, ce n'est pas le lieu d'une carrière, on en parlait tout à l'heure. C'est le lieu d'un abandon à l'être. Après, se pose aussi la question de savoir si finalement, dans ce silence, et ça c'est une théorie que beaucoup de gens ont échafaudée, il n'y a pas la parole poétique suprême, la parole poétique préservée. Alors on peut dire que d'une certaine manière, le silence de Rimbaud, c'est aussi une volonté de ne pas parler pour ne rien dire. En soi, ça a de la noblesse. Ça le rapproche aussi, par une voie détournée, après l'œuvre si extraordinaire qu'il a faite, des expériences finalement de reclusion, d'expériences presque monastiques, expériences des chartreux.
Il est mort assez jeune, vous l'avez rappelé tout à l'heure. De quoi est-il mort?
Il est mort d'un cancer. Cancer à la jambe, donc il a dû être amputé, puis il est mort dans des souffrances atroces.
Et il était entouré, est-ce qu'il a eu une vie affective ensuite, parce qu'on a parlé de sa vie professionnelle, on n'a pas du tout parlé de sa vie affective depuis Verlaine. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Alors, il a eu une vie affective qui nous est relativement mal connue. Mais enfin, en demeurant, c'est une très bonne question. Il a eu une histoire homosexuelle avec Verlaine. Ça, c'est tout à fait avéré. On a dit qu'il en avait eu une autre avec un autre poète très étrange qui s'appelle Germain Nouveau. Alors là, pour le coup, on n'en sait rien. Et peut-être un jour parlerez-vous sur cette antenne de Germain Nouveau. Germain Nouveau était un personnage totalement déjanté, délirant, fou, qui était, pour le coup, alors, homosexuel, pris à pic, tout ce qu'on peut imaginer, puis qui a été pris par la foi à un moment et qui s'est converti et qui a commencé à mener une vie d'ascète, de mendiant, qui allait à Jérusalem à pied. Et qui est revenu et qui est mort à Aix, sur le porche de la cathédrale, en mendiant. Alors on sait que Cézanne lui donnait une pièce tous les dimanches. C'était un des plus grands poètes, simplement, le grand copain de Rimbaud. Et donc, après quoi, la vie de Rimbaud reste assez quand même mystérieuse.
Parce s'est jamais marié, par exemple, vous diriez. Parce qu'il aurait pu être bisexuel.
Alors après, justement, en Abyssinie, on sait qu'il a eu une relation avec une femme abyssine chrétienne, voilà, qui s'appelait Mariam, et qu'il a abandonnée néanmoins. Et l'obsession du mariage est extrêmement présente chez lui. Mais alors là, pour le coup, je dois dire plus sur un mode bourgeois que sur le mode Cantique des Cantiques, parce que c'était l'idée de faire une fin. Voilà. Et donc, il rêvait en fait d'avoir de l'argent pour pouvoir revenir au pays en enfant prodigue et faire voilà, un mariage avec une bourgeoise locale, ce qu'il n'a pas pu faire puisque d'abord, il n'a pas gagné assez d'argent, il s'est trouvé estropié. Et là, il s'est dit que finalement, il retournerait peut-être justement en Afrique pour pouvoir se marier avec une femme abyssine qui accepterait sa condition.
Oui, et on voit dans toute cette fin de vie qui est tellement à rebours de ce qu'il a été au début de sa vie, qu'il n'a jamais pu finalement se débarrasser de sa mère.
Oui, sa mère sans doute a été un grand amour, comme sa sœur Isabelle a été sans doute, même je pense, son plus grand amour. C'est quelqu'un qui a une relation quasi incestueuse en fait avec ses sœurs, qui voit comme des doubles, dont il est passionné, qui rejette en même temps. Et c'est sûr que l'image de sa mère est très présente jusqu'au bout. Il y a une histoire tout à fait étonnante au sujet de la mère de Rimbaud. On sait qu'elle a tenu, quelques années après l'enterrement de son fils, à passer une nuit dans le caveau avec le corps de son fils à côté d'elle. Donc elle s'est fait descendre, elle a passé la nuit dans le caveau, elle est remontée. Et voilà, le rapport de Rimbaud aux femmes, néanmoins, est un rapport toujours d'altruisme. C'est quelqu'un qui n'a aucune dureté. C'est quelqu'un qui est amour pour tous.
Est-ce qu'il a rencontré Victor Hugo?
Alors, il n'a pas rencontré Victor Hugo.
Il se connaissait.
Il adulait.
Verlaine connaissait Hugo. Il y a une formule qui traîne, alors on ne sait pas, est-elle apocryphe ou pas, paraît-il, mais ça n'est pas sûr. Hugo aurait dit de Rimbaud qu'il était Shakespeare enfant.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de poètes de son temps ont eu des mots comme ça sur lui, qu'il était la poésie incarnée. Mallarmé, je crois, avait une vision comme ça de Rimbaud comme étant l'incarnation même du verbe. Finalement, il s'est peut-être aussi tu parce que les gens de son temps avaient du mal avec ça, avec ce qu'il leur proposait. On sent quand même en même temps une fascination et une impossibilité de recevoir ce feu. Il dit lui-même, d'ailleurs, le poète est un voleur de feu, comme si ce n'était pas possible.
Oui, c'est très bien dit. José Cabanis a une très bonne formule. Il dit que le problème, ce n'est pas tant que Rimbaud se soit tu, mais que tant d'autres qui n'ont rien à dire
écrivent.
Voilà. Alors après, sur le fond, la question du silence, c'est vraiment la question la plus curieuse qui soit. Effectivement, le silence, c'est une parole préservée aussi.
Et alors, pour revenir au thème plus large de l'émission, sur la poésie comme langage spirituel, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, vous appréciez des poètes vivants qui ont une forme d'expression spirituelle?
J'ai envie de dire que toute poésie, qu'elle soit sur un mode religieux ou pas, est spirituelle. Toute poésie...
Le langage de l'esprit, à ce moment-là, au sens... Qu'elle ouvre. Expliquez-nous dans quel sens vous l'entendez.
Oui, elle ouvre l'esprit et elle permet à l'esprit de rentrer en communication
avec
et plus en communion avec l'invisible, avec le visible aussi bien, et dans le visible avec ce qu'il y a d'invisible dans le visible.
Tout à fait, c'est de dire dans le visible ce qu'on ne voit pas habituellement avec les yeux du quotidien.
Oui.
Et quels sont les poètes qui vous touchent aujourd'hui?
Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, on est dans une époque en réalité très faste. Je vais en citer quelques-uns. Alors, on va dire qu'ils sont très âgés, mais enfin, on peut retourner ça en disant qu'ils sont très en avance sur nous aussi. Moi, je pense à Yves Bonnefoy, qui est un maître pour moi et un ami, et voilà, pour qui j'ai la plus totale admiration, qui est l'exemple de quelqu'un qui, maintenant, à 91 ans, travaille sans discontinuer, avec une énergie qui n'a jamais faibli, et bien au contraire, puisque à partir de l'âge de 80 ans, on va dire, il s'est même totalement renouvelé, qui effectivement, à travers toute son œuvre, ressaisit tout ce qui est de l'ordre de l'ineffable, de ce qui fait que nous sommes attachés les uns aux autres pour ce que nous avons de meilleur, de plus beau à partager ensemble.
Je voudrais peut-être terminer cette émission sur une expérience que j'ai eue. Quand j'enseignais, quand j'étais très jeune, je donnais des cours dans une école pour enfants en difficulté. Et j'avais une classe de quatrième particulièrement difficile, essentiellement des garçons, comme on peut l'imaginer. Et un jour de janvier, je leur ai lu un poème de Rimbaud. Et je peux pas, quand j'y repense, j'ai à nouveau une émotion qui me saisit. Il y avait là un garçon qui s'appelait Eric, je me souviens plus de son nom de famille, mais son prénom c'était Eric. Ce qui est passé dans le regard de ce garçon, quand j'ai lu Aube de Rimbaud, est quelque chose d'inoubliable. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est venu me voir à la fin, il m'a dit « Madame, est-ce que vous pouvez me donner d'autres poèmes de ce poète dont vous avez parlé ?» Je lui ai donné évidemment mon exemplaire des œuvres de Rimbaud. Et ce garçon qui était nul en français est devenu excellent de janvier à juin. Et je dois dire, voilà, ça c'est vraiment une expérience vécue de ce que peut le poète, je dirais au-delà du temps, de ce que peut la voix du poète, et peut-être parce que Rimbaud est un poète adolescent, qu'il a touché particulièrement ce garçon, mais je crois que toute poésie, quand elle est reçue, peut faire cette expérience. Et ce poème, c'était le suivant. C'était l'aube. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au Wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles, dans l'allée, en agitant les bras. Par la plaine où je l'ai dénoncée au coq, à la Grand-Ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Nous allons rester là. Merci beaucoup Stéphane Barsac d'être venu nous parler de la poésie et de Rimbaud en particulier. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Robert Misrahi pour parler de l'érotique du bonheur. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Excellent dimanche à tous.